Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. La nouvelle parution printanière de la revue La Vie Mancelle et Sartoise est sortie à J-71 du départ de l'édition 2023, centenaire des 24 heures du Mans. Nous recevons, comme l'habitude, monsieur Jean-Pierre Guyard, président de l'association culturelle et touristique du Mans et sa région et directeur de la publication. Bonjour.
Bonjour.
Donc, avant d'évoquer les différents sujets qui composent ce nouveau numéro de la revue, on retrouve, comme dans chaque édition, déjà depuis quelques mois, différentes archives de cette course automobile centenaire. Donc, dans la page 18 à 24, c'est juste quelques pages centrales. On va tout d'abord parler de l'histoire atypique, le rêve fou du constructeur Jean Rondeau avec Pierre Barsac.
Ben oui, effectivement, un monceau, il n'y en a pas beaucoup qui ont construit des voitures. Et si, il y en a quand même un autre, mais et qui ont gagné les 24 heures du Mans. Et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et puis, eh ben, je dirais que le rêve fou, c'est mal terminé. Ça a été un petit peu dans la difficulté d'un bout à l'autre, puisque malheureusement, il a disparu à l'âge âgé d'une quarantaine d'années dans un banal accident de la route. Donc, effectivement. Alors, il est né en 1946, et à 3 ans, il est sur le bord du circuit. Ah oui, alors ça... Il y a beaucoup de petits monceaux qui, effectivement, ont été bercés au bruit des voitures. Et puis, ben donc, il est copilote de son frère aîné, il est dans la mécanique, effectivement, puisqu'il travaille avec François Migaud. Et puis, en 72, ben, il va démarrer au volant d'une Chevron, une B21, puis une Porsche, puis une Mazda, avec son ami, qui était le mien aussi, Claude Buffet. L'année suivante, bah, il en a marre, hein, parce que c'est des petites voitures quand même, effectivement, puis on gagne pas grand-chose avec, il va construire la sienne. Que là, il rencontre effectivement un sponsor, Inaltera. Je pense que tous les monceaux ont en tête les Inaltera qu'il y avait sur le circuit. Et puis, bah, donc, avec ce brave sponsor, eh bien, ma foi, il va pousser, je dirais, le miracle à aller jusqu'en 1980, qui est vraiment l'année de sa victoire. Bon, un petit peu difficile, et puis, par contre, donc, il a essayé après, mais malheureusement, bah, ce sont les revers de la course, avec un championnat qui est devenu de plus en plus ardu, et disons avec de plus en plus de normes difficiles à suivre. Et puis ben donc il a fini, effectivement, il est revenu au rang de pilote, puisque si les automobiles n'avancent plus, lorsqu'on a le virus de la conduite dans le sang, ben, on va jusqu'au bout. Et puis ben donc il va courir également chez Peugeot avec Pignard Rondeau. Ben Jean Rondeau, effectivement, autre illustre sartois. Et puis, ben donc, malheureusement, ça s'arrêtera. Si, il a quand même créé une voiture qui va devenir la Venturi. Mais malheureusement, quelques années plus tard, tout s'arrête. Et comme dit sa maman dans son livre, c'est assez émouvant, sur le passage à niveau de Champagné, c'était un rail de trop.
Hélas, des victoires 24 heures du Mans, souvent acquises grâce à des nouveautés techniques expérimentées par les constructeurs. Alors, c'est Patrick Mèche qui nous refait l'historique de ces 100 ans d'innovation sur le circuit des 24 heures.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on avait enlevé les nid de poule en 1923 pour que ça roule à peu près correctement. Et c'est là qu'on a commencé à utiliser les premiers enrobés qui vont devenir de l'asphalte et qui vont permettre de tenir la voiture sur les quatre roues, notamment sur les lignes droites des Hunaudières. Le phare anti-brouillard également, qui a été créé pour Le Mans, et notamment pour éviter les fameux accidents qu'il y avait à Maison-Blanche le dimanche matin. La traction avant, puisque jusqu'à 1927, toutes les voitures étaient à propulsion, c'est-à-dire moteur arrière, propulsion arrière, et donc on a commencé en 1927 avec la traction avant. En 33, le marquage au sol. Oui, pour la nuit, là, c'était quand même un peu plus facile. 1951, le pneu radial. Eh ben, effectivement, le pneu X Michelin, il est né de la compétition. L'injection d'essence, le frein à disque, les phares à iode qui permettent de voir beaucoup plus loin. Le moteur turbo-compressé qui a fait son apparition en 1974. Bon, le moteur rotatif, bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment quelque chose qui ait perduré. Le moteur hybride, ah bah oui, effectivement, ça, le moteur hybride, on en parle de plus en plus. Un moteur diesel qui a gagné, et puis bah, maintenant, on s'en va vers je dirais, les 24 heures, vers les 24 heures à l'hydrogène pour arrêter un petit peu le CO2. Voilà un petit peu le décrit très rapidement toutes les innovations que l'on doit aux 24 heures du Mans.
Alors vous, de votre côté, vous êtes intéressé aux participations féminines, notamment les Françaises dans cette course. Alors quelques noms donc parmi ces 22 Françaises qui ont inscrit leur nom dans la course.
Oui, alors donc Odette Chicot qui a été la première. Odette Chicot, effectivement, qui elle, en 1932, elle s'est classée quatrième au général et première dans sa catégorie. Et depuis, aucune femme n'a obtenu, je dirais, un top 5 maintenant dans le classement. Anne-Cécile Rositaire, qui est un petit peu moins brillante, mais quand j'avais trouvé ça, dite chicane mobile. Oui, comme surnom, c'est pas très sympathique. C'est tout simplement qu'à ses débuts, elle conduisait très lentement pour s'habituer. Et puis, bah, tout le monde grognait après elle parce que, bah, effectivement, la doublée, c'était un peu folklorique sur les circuits, donc c'est pour ça qu'elle avait été baptisée Chicane Mobile. Et notamment, elle a conduit la première voiture à carrosserie fermée, qui était une voiture, une Adler Trumpf, qui était très très lourde, et malheureusement, bah, le moteur, il a pas tenu bien, bien longtemps, parce qu'au bout de 40 tours, bah, il a claqué. Donc bah, elle a couru, après la course, elle reprend la compétition en rallye de 48 à 53, et arrête là, effectivement, sa carrière. Alors, une plus connue, parce que plus près de nous, c'est Marie-Claude Beaumont, la petite blonde à la grosse voiture. Effectivement, quand on voit Marie-Claude Beaumont, le gabarit, elle courait avec Henri Gréder au volant d'une Chevrolet, une Chevrolet Corvette Stringway, comme un moteur V8, 7 litres de cylindrée pour un poids total d'une tonne 6. Donc, effectivement, quand on la voyait qui rentrait dans la voiture, ben non, ben elle s'en sortait très, très, très bien. Et puis donc, elle a, après 6 participations aux 24 heures, est surtout une pilote de rallye. Parce que Marie-Claude Beaumont a été championne de France, championne d'Europe des rallyes. Et la quatrième, on ne peut pas l'oublier, c'est Anne-Charlotte Vernet. Puisque, effectivement, je dirais, elle est née d'une famille très impliquée dans l'automobile et dans la construction mécanique. Et donc, c'est elle qui est la recordman des participations aux 24 heures, puisqu'elle le fait pendant 10 fois. Et elle terminera quand même 8 fois la course. Effectivement, elle détient, elle, le record des participations féminines aux 24 heures.
Autre évocation sur les 24 heures, c'est Daniel Levoyer, les génicelles aux Hunaudières. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ?
Ah, ce qu'on peut dire au sujet, bah, que l'auberge des Hunaudières existe toujours. Et que, il y a des tas de choses qu'on peut dire, hein, si vous voulez, du pilote, des pilotes, puisqu'il y avait une époque qui était quand même beaucoup plus cool que maintenant. Il y avait un pilote anglais qui passait, il klaxonnait. Donc là, je dirais, Génicelle savait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il mettait un demi sur le bout du bar. Le tour d'après, il s'arrêtait, il buvait son coup, il se désaltérait et il repartait. Je vois pas ça se faire maintenant. Et c'est surtout connu, la maison Génicelle, puisque en cas de victoire, tout le monde, les pilotes, les écuries et tout le monde allait fêter la victoire chez Génicelle au Hunaudières. Il y a d'ailleurs une photo, page 28, où il y a Graham Hill et Henri Pescarolo, l'année où ils ont gagné, on les voit qui s'échangent leurs verres. Et d'une façon un petit peu, pour des pilotes, ils étaient quand même à une certaine dextérité, effectivement, c'est-à-dire qu'ils se jetaient le verre par-dessus la table, chacun rattrapant le verre qui lui arrivait en face. Donc voilà, un petit peu. et je crois que c'est le bon côté de la maison Génicelle.
Et on va terminer sur ce chapitre sur les 24 heures avec celles qui ont étonné le public. Cette fois-ci, c'est Patrick Mèche qui évoque quelques voitures surprenantes.
Oui, effectivement, la Mercedes-Benz de 1955, malheureusement, ben oui, on la passera un petit peu sous silence parce qu'elle nous rappelle de mauvais souvenirs. En 1963, la BRM à turbine. Alors c'était le premier moteur turbo compressé, et je me souviens, elle marchait au kérosène, et c'était double zéro, hein, c'est une voiture expérimentale qui courait pas le classement, et je me souviens, moi, de l'avoir vu courir, et l'avoir surtout entendu, parce que c'était pas le bruit sec d'un moteur, c'était un sifflement qu'on entendait. Alors une qui a, alors là, beaucoup marqué le public, c'est la Chaparral. Puisque la Chaparral a été la première voiture où il y avait donc un volet à l'arrière qui permettait d'appuyer, de faire un effet de sol de façon à ce que la voiture ne décolle pas ou n'ait pas le derrière qui se lève quand ça allait trop vite. Et il y a eu également l'Ardex. C'est une vieille marque française des années 30 avec un aérodynamisme un peu curieux. Et puis surtout en 2012, alors la fameuse Delta Wings que Nissan avait engagée, et on aurait dit un triangle monté sur quatre roues, donc les roues avant très peu écartées, les roues arrière avec un magnifique empattement. C'est vrai qu'elle était quand même superbe à voir.
Et donc on va maintenant partir sur cette belle illustration de la revue avec Dame de l'Épau, Bérangère, évoquée par Gérard Blanchard.
Alors, qui était Bérangère de Navarre? Oui, effectivement, Dame du Mans, une vie à attendre. Ben, elle a toujours attendu, Bérangère. C'est-à-dire que Aliénor d'Aquitaine cherchait une prétendante pour marier son fils Richard Cœur de Lion, de façon à assurer une descendance à la dynastie des Plantagenets. Et puis donc c'est là que elle est allée voir le roi de Navarre, puisque sa fille était un beau parti libre. Donc Aliénor, elle a dit, on pourrait peut-être les marier. Ben oui, effectivement. Il faut dire que Richard Cœur de Lion, c'était un bagarreur. Il a passé sa vie à se battre, d'ailleurs, il en est mort. Et c'était également un homme qui aimait beaucoup les femmes. Alors donc Bérangère, elle est sorte de sa Navarre natale. Et puis, elle est partie. Mais alors, elle a attendu son mari, parce que son mari, à cette époque-là, il s'en allait faire les croisades. Donc, on les a mariés le long de la route. Et puis, elle attendait son retour. Elle a attendu. Parce que il a été fait prisonnier en 1192 et il n'a été libéré qu'en 1194. Et pendant ce temps-là, elle l'attendait. Retour sur les terres anglaises et normandes, donc quand elle est rentrée, elle attendait toujours. Parce que Richard, il était soit en Angleterre, il était un petit peu partout, ou il guerroyait un petit peu partout. Et puis malheureusement, si elle l'avait vu quand même, elle avait quand même eu de la chance de le voir à Toré, les Pins, près du Lude, pour l'achat d'un site à bâtir, et un petit peu à Poitiers en 1196, et puis un autre passage au Mans, pas que 1198. Mais malheureusement, l'année d'après, Richard Cœur de Lion a pris un carreau d'arbalète à Chalus. Oh, c'était une guerre, ou c'était même pas une guerre. C'était tout simplement un vassal de Richard Cœur de Lion qui avait pas tout dit à son patron. Alors donc, il a dit, on va aller le calmer un peu. Et malheureusement, ça s'est mal terminé. Et puis, après, c'est Jean Santerre qui a pris la place de son frère. Et puis, la brave Bérangère, on savait plus trop quoi en faire. On peut pas dire qu'Aliénor d'Aquitaine n'apportait dans son cœur. Et puis, c'est comme ça qu'on en a fait une reine douairière. Un douaire, c'est-à-dire qu'on lui a donné, au Mans, des terres et dans la province du Maine, de façon à ce qu'elle puisse, non pas régner, mais qu'elle puisse posséder un petit peu quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle a fait construire l'abbaye de l'Épau. Pourquoi abbaye royale? C'est parce que c'est la reine Bérangère de Navarre qui l'a fait construire. Et donc, elle y est enterrée. Alors, pourquoi est-elle enterrée à l'abbaye de l'Épau? Tout simplement parce qu'elle ne se sentait pas en grâce pour être enterré à l'abbaye de Fontevraud avec toute la famille Plantagenet. Voilà ce que l'on peut en dire. C'est une reine qui a été très effacée et qui a passé sa vie à attendre son roi.
Très bien, on va maintenant s'intéresser à une autre femme qui est également donc présentée dans ce magazine. C'est une rencontre de Serge Morin et en cette période de Pâques, le lien est tout fait pour parler d'Elena Nova, donc qui nous vient du froid, comme il dit, et qui confectionne de magnifiques œufs décorés notamment.
Oui, effectivement, elle nous vient un petit peu du froid. Parce que si elle s'est installée à quelques kilomètres du plan d'eau de Tuffet, c'est-à-dire que là, elle a posé ses valises. Elle est originaire de Saint-Pétersbourg, donc ça fait un petit peu... Tuffet-Saint-Pétersbourg, il y a quelques kilomètres tout de même. Et puis, disons qu'elle s'est installée un petit peu partout... Sofia, en Bulgarie, elle a vécu, au milieu d'une période un petit peu difficile à l'époque, puisque c'était la pleine époque communiste. Et puis, elle est quand même très, très marquée par la restauration d'icônes, effectivement. La restauration d'icônes est également pour fabriquer des œufs. Puisque l'œuf, les œufs de Pâques colorés ont toujours été une spécialité, russe, puisque les fameux œufs que l'on peut voir dans tous les musées à Moscou et surtout à Saint-Pétersbourg. Alors, elle a une passion dominante, c'est la couleur, de travailler la couleur, et également de travailler les icônes. Et puis, elle aime bien le facteur cheval. Et puis avec avec sa fantaisie, et puis un petit peu une imagination débordante. C'est-à-dire que lorsque l'on rentre chez elle, l'entrée, on a les photos. Donc on voit bien que c'est quelque peu, pour certains on dirait farfelu, moi je trouve ça original. Il y a également une sirène, puisque c'est la maison de la sirène qui est assise sur l'appui de la fenêtre. On parle de la velue, la fameuse bête immonde qui hantait l'huile, et qui peut-être d'ailleurs lance toujours, on ne sait pas. Voilà un petit peu le personnage d'Elena Nova, qui est très bien décrit d'ailleurs par notre ami Serge Morin.
Alors dans la continuité de l'article paru dans la précédente édition sur les glorieux précurseurs, on retrouve dans ce magazine le parler sartois avec notamment Serge Bertin qui nous invite au panthéon des auteurs patoisans.
Ah oui, on continue, parce que de toute façon, on n'en a pas fait le tour, même avec cet article-là, et on n'en fera jamais le tour, puisque le patois sartois, c'est pas qu'il revit, mais il y a tout un groupe dont me sont assez proches, qui travaille vraiment pour l'entretenir. C'est-à-dire que le patois, ce n'est pas une espèce de truc folklorique, ça fait partie vraiment de la culture sartoise. Bon, il y a quelques photos qui sont intéressantes. Vous avez Gaston Chevreau, qui est originaire de Saint-Marc-d'Outillet et qui a été instituteur. Vous avez René Langlais, Jean Jousse, Eddie Jacquenot, Roger Mahuet, qui a été effectivement un grand patoisant de Malicorne. Et puis, il y a également ce qu'il y a de très très intéressant, c'est qu'on nous parle de toute une génération qui continue à faire le travail, c'est-à-dire à vouloir faire vivre le patois. Le patois a-t-il un avenir ? Oui, effectivement, le patois a un avenir, puisque il y a le groupe Eulan qui existe. Eulan, c'est ma sartois, ça. Hein. Avec beaucoup d'auteurs. Et puis, autre chose, le groupe là a des projets, puisqu'il y a un projet notamment de réunir un certain nombre d'écrits par des patoisans, et puis dans les Olympiades. qui seront publiés, qui feront l'objet cet hiver d'une publication. Donc, effectivement, le patois, c'est pas de l'ancien, c'est toujours du vivant.
Voilà, et on remercie Fabrice Louvet et également André Jaunet qui ont participé à ces écritures.
Oui, chacun ayant apporté sa pierre à l'édifice.
Deux autres sujets qu'on peut également évoquer en parlant de Sablé-sur-Sarthe. Dans un premier temps, on va parler de l'usine Belle et la guerre des deux vaches. Alors, on parle de la vache sérieuse et la vache qui rit.
L'usine Bell, effectivement, qui est apparue, qui s'est installée à Sablé, puisqu'il cherchait de la place pour s'agrandir, et puis qui est devenu ce que l'on connaît maintenant. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la vache qui rit, qui est un produit Bell, Bell et bon d'ailleurs, dit-on, n'a jamais été fabriqué à Sablé, puisque c'est le Kiri qui est fabriqué à Sablé. Le fromage des gastronomes en culotte courte, on connaît bien mes publicités. Et il y a eu un une grosse bagarre entre la vache qui rit, qui était effectivement fabriquée par Bell dans le Jura, puisque Bell est quand même issue du Jura, et la vache sérieuse, qui était elle fabriquée à Lonsaunier, c'est dans le Jura aussi. Mais alors là, il y a quand même eu de belles bagarres. Ça a été jusqu'à un procès. Hein. Et puis tout ça, ça s'est réconcilié, si. On peut même dire que ça s'est réconcilié, puisque en fait le groupe de la vache sérieuse a été racheté par le groupe de la vache qui rit. Il y en avait quand même beaucoup. Il y avait la vache Grosjean, il y avait Graff, il y avait la mère Picon, la vache heureuse et la vache coquette. C'est pour vous dire que ça devait être porteur. Alors ce qu'il y a d'admirable dedans, c'est de voir les magnifiques buvards qu'il y a à page 10, où vous avez le routier ne prend pas la route sans se munir d'une boîte de lavage qui rit. Alors on voit le camionneur qui est en train de tourner. Et la vache sérieuse, il y a la vache gros gens, il y a toutes les illustrations. Et là, moi j'invite tout le monde, même si vous n'êtes pas intéressé par les voitures, à le lire, parce que vous allez avoir notamment une évolution de la signalétique. La vache qui rit d'origine et la vache qui rit qui est devenue maintenant, c'est assez amusant, parce que la première est assez sombre et on la voit vraiment sur le Jura. La deuxième, on la voit effectivement qui est toujours écroulée de rire, elle rit toujours. Hein. Mais c'est un article intéressant qui retrace un peu l'histoire de toutes ces choses-là.
De magnifiques étiquettes, donc, publiées par Didier Béoutis. Et Sablé-sur-Sarthe, encore à l'honneur dans cette publication de Jacques-Henri Minier. C'est donc que le château de Sablé-sur-Sarthe fut une des premières photos essais de couleurs de Charles Cros.
Effectivement, Charles Cros, qui est plus connu par le prix de l'Académie Charles Cros, qui est gagné souvent par des chanteurs, des compositeurs, mais il a été poète. Il a toujours aimé la poésie. Et puis, il a travaillé beaucoup sur la photo en couleur. Et il a été accueilli, effectivement, au château de Sablé, à cette époque-là. Et puis, il a fait un gros travail pour essayer de faire de la photo en couleur. Il faut dire que la photo, puisque Charles Cros est né en 1842, et donc c'était les tout débuts de la photographie qui se faisait à l'époque en noir et blanc, et donc c'est pas très très facile. Donc il a travaillé, il s'est beaucoup inspiré du Sartois, un concours apporté par un chimiste, Alphonse Poitevin. Et puis, je dirais que c'est là qu'il fréquente assidûment les bénédictins de Solesmes. Et puis, la première photo, d'ailleurs, nous la publions en page 47, qui a été faite au château de Sablé par Charles Cros. Elle se conserve assez mal, puisqu'il n'y avait pas peut-être l'efficacité des produits chimiques actuels pour tenir ce genre de choses, mais elle est quand même relativement jolie. Et puis on voit, on me dit c'est une nature morte, je dis non, ça a tout simplement été fait parce que Charles Cros a choisi énormément de sujets qui étaient riches en couleurs, de façon à faire ressortir effectivement la photo couleur.
Différentes autres publications d'une ou deux pages, et on va tout de même inviter nos auditeurs à flâner au bord de l'eau. On va prendre la direction des étangs de Lavardin.
Ah, les étangs de Lavardin. Qui n'a pas connu les étangs de Lavardin ? Quand je pose cette question-là, il me dit oui, je me rappelle. Oui, effectivement, il y a un maire particulièrement dynamique à une époque à Lavardin. qu'avait dit ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec notre village pour essayer de le redynamiser. Et bien, donc, André Blanchet, qui était le maire, ben, il a dit si on faisait un plan d'eau puis une salle des fêtes. Il faut dire qu'à cette époque-là, ben, je dirais qu'on partait pas en week-end au bord de la mer, on y allait. Mais c'était souvent pour une semaine, et puis bon, bah, souffler un petit peu au bord de l'eau, c'était très à la mode dans les années 70. Donc avec pédalo, buvette, coin de pêche, et donc il faut dire que ça a connu un très grand succès. Moi je me souviens y être allé avec mon Solex, hein, on partait, puis on allait passer le dimanche après-midi au plan d'eau de la Varvin. Il y avait de nombreux bénévoles, hein, parce qu'à cette époque-là, tout le monde retroussait les manches pour faire vivre les villages. Le Covid n'était pas passé par là. Et puis, donc, tout le monde vient. Il y a même en 1967, les Jeux intercommunaux, qui se faisaient beaucoup à l'époque. C'était une sorte d'interville entre localités sartoises. Vous avez une magnifique photo également d'affluence aux étangs en juillet 1970. Et là, j'invite le lecteur à la regarder parce que vous avez une magnifique Ami 8 Break. Il y a une Diane, il y a une 403. Enfin, il y a toutes les voitures.
Tout à fait. Une autre génération de véhicules.
Toutes les voitures de l'époque qui nous rajeunissent. Donc, et puis malheureusement, ben, en 89, quand la famille Bedet, Maurice et André Bedet, qui avaient repris l'exploitation du restaurant, ont pris leur retraite. Il n'y a eu personne pour revenir. J'y suis passé dernièrement. C'est vrai que la nature a repris ses droits, puisque les arbres, l'herbe, tout, il n'y a plus rien. Si, parce que nous, on sait que on sait que ça existait, mais c'est devenu, disons que la Varvin, comme beaucoup de villages autour du Mans, c'est devenu malheureusement un village dortoir.
Voilà, donc on va inviter nos auditeurs à se procurer, comme à l'habitude, cette revue, le numéro 478, chez dépositaires locaux, ou alors se la procurer en s'abonnant, tout simplement. Quelques conseils pratiques
hein. Vous avez à l'intérieur, vous faites une photocopie de sur une page, il y a les tarifs d'abonnement et les conditions d'abonnement, et puis vous envoyez le tout avec un chèque uniquement de 31 € pour 5 numéros, ou alors vous pouvez avoir un abonnement de 2 ans avec 10 numéros pour 60 €. Vous nous envoyez le tout à l'adresse indiquée, et puis le numéro d'après, vous le recevez directement chez vous, et comme ça, vous ne raterez aucun numéro.
Voilà, c'est la démarche qu'on invite nos auditeurs à faire, et d'ailleurs, il est régulièrement feuilleté en studio, ce magazine. C'est la revue qui permet d'enrichir pleinement les quelques minutes d'attente, parfois.
De l'enrichir à bon escient.
C'est agréable à lire, à feuilleter, avec les nombreuses illustrations, c'est voilà que je le recommande à tout le monde. On espère en tout cas vous retrouver pour la prochaine édition. Est-ce qu'on peut dévoiler déjà de quoi il s'agira? On va parler 24 heures peut-être.
Oui, et on va parler des grands duels. Ford, Ferrari, Porsche, enfin bref, tout ce qui a animé les 100 ans de 24 heures. On va parler également de personnages qu'on entend encore aujourd'hui sur les ondes et qui prêtent leur voix pour commenter l'événement, enfin... Je vous en dis pas plus, mais croyez-moi, ce sera le dernier d'ailleurs de la série 100 ans de 24 heures. Mais j'en profite simplement pour dire que si certains d'entre vous les cherchent, il n'y a qu'à venir au pesage, nous aurons un stand et nous les tenons à la disposition de notre public.
On rappelle donc les dates des 24 heures, donc là où on pourra vous retrouver.
Alors on nous retrouvera le 2 et le 3 juin, c'est-à-dire 8 jours avant au pesage, place de la République. On sera à rue Audin, on sera au Mans, au Jacobin, on sera également à Arnage, et puis un petit peu plus tôt, le 28 mai, on sera pour le Grand Prix pour la commémoration du premier Grand Prix d'Automobile Club de France à Saint-Marc-la-Brière.
Merci à vous Jean-Pierre Guyard, on se donne rendez-vous donc pour le prochain numéro. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Et merci.
Merci à vous.
C'est le clou du moment, vraiment c'est le big événement. Le rythme des moteurs, c'est pas trop plein d'ardeur, les cœurs, du temps à l'heure, si l'on comme comme des éclairs, des bagnoles du tonnerre ont l'air de provoquer l'enfer. Tandis que sur les pelouses, bah dis donc que je te pousse, en doute le public tourne les pouces. Chacun se croit un champion comme Fangio, car on a droit aux illusions à gogo quand tout se termine et que chacun se débine. Plus d'une touche de quoi rouler tout comme une voiture à turbine. Pour 24 heures du Mans, tout le monde est content. Vraiment, c'est un jour enivrant. Et quand la journée s'achève, en portant sa ratio même, chacun s'en va en chantant. Les 24 heures, les 24 heures, les 24 heures, les 24 heures.